Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est, on peut dire que c'est pendant les 3 premières heures de la crucifixion. Et en fait, c'est dans l'évangile de Jean, il n'est pas question des heures de ténèbres. Donc Jean passe par-dessus cette question des heures de ténèbres. Mais les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc, ils disent clairement. Là, je n'ai pas affiché Luc, mais il le dit aussi, que à partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et c'est Luc qui rajoute que le soleil fut obscurci. Donc voilà, on voit clairement qu'il y a un changement clair. Le mot est mal choisi, clair, parce que c'est les ténèbres. Mais il y a vraiment un changement significatif. Que à la 6e heure, donc la 6e heure du jour, midi, 3e heure de la crucifixion, les choses changent et il y a des ténèbres qui tombent sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Donc, et c'est en plein jour, c'est midi. Donc à midi, c'est le moment où le soleil normalement est à son apogée, où il éclaire le plus. Et là, donc, c'est quelque chose de tout à fait surnaturel. Dieu va faire que, à ce moment-là, qui est le plus clair normalement de la journée, eh bien, il y ait des ténèbres qui tombent sur tout le pays pendant 3 heures, donc de midi jusqu'à 15 heures, selon notre façon de compter, pour les Juifs, de la 6e à la 9e heure. Donc, il faut voir pourquoi, en fait, c'est pour montrer que ce qui va se passer pendant ces 3 heures-là, c'est quelque chose que Dieu cache aux yeux des hommes. Il y a des ténèbres, les hommes ne peuvent pas voir, ne peuvent plus voir, ne peuvent pas voir ce qui se passe réellement entre le Seigneur et Dieu pendant ces 3 heures-là. Donc c'est ce qu'on appelle les heures de ténèbres. Ou les heures de l'abandon. Pourquoi on dit les heures de l'abandon? Eh bien, parce que à la fin de ces 3 heures-là, à la 9e heure, Jésus s'écrie d'une forte voix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on a vu que dans les 3 premières heures, le Seigneur, il fait face aux hommes et il souffre. De la part des hommes. Il souffre les moqueries, les insultes, les provocations. Mais on a vu que dans la première parole, le Seigneur s'adresse à Dieu comme à son Père. Il dit: Père, pardonne-leur. Donc on voit que la relation entre le Seigneur et Dieu, c'est une relation du Fils avec son Père et il s'adresse librement à Dieu comme à son Père. On peut dire qu'il y a une parfaite communion entre le Seigneur et son Dieu et Père pendant ces 3 premières heures de la crucifixion. Et dans les 3 dernières heures, il y a quelque chose qui change. Et vous remarquez que le Seigneur, il ne dit pas Père, Père, mais il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on verra que la dernière parole, le Seigneur, il va de nouveau dire: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc on voit que dans la parole centrale, le Seigneur ne dit pas Père, mais il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si la communion était interrompue entre le Père et le Fils. Alors vous avez bien remarqué, j'ai pas dit que le Père avait jugé son Fils ou que le Père avait condamné son Fils. La Bible, elle ne parle pas comme ça. Elle dira plutôt que Dieu a condamné le péché dans la personne du Seigneur. Mais quand la Bible parle d'abandon, de colère ou de jugement, elle n'utilise pas la relation Père et Fils, mais plutôt Dieu et le Seigneur comme homme. Et ce qu'on remarque, donc, c'est par les mots que le Seigneur utilise, on comprend non seulement qu'il a été abandonné, c'est explicite, mais aussi dans la façon dont il parle à Dieu, mon Dieu, et non pas Père, on comprend qu'il y a eu une interruption de relation. Donc, c'est ça qui fait le caractère des trois dernières heures sur la croix, qu'on appelle les heures de ténèbres, c'est que pendant ces trois heures-là, la relation entre le Seigneur et Dieu a été interrompue. Le Seigneur a été abandonné. Il a été seul. D'accord ? Et pourquoi il a été abandonné ? Pourquoi il a été seul ? Parce que il a pris sur lui nos péchés pendant ces trois heures-là. Et il a pris sur nous nos péchés et il a été puni ou frappé de Dieu à notre place à cause de nos péchés. D'accord ? Et ça, c'est ce qui fait vraiment le caractère de ces trois heures-là, c'est que le Seigneur a été seul, non seulement seul vis-à-vis des hommes, mais seul dans le sens qu'il a été abandonné de Dieu. Et non seulement abandonné de Dieu, mais frappé par Dieu. Parce que à ce moment-là, il a pris nos péchés sur lui. Et donc, en prenant nos péchés, il a enduré le jugement que méritaient nos péchés. Ce que nous, on méritait, et que lui ne méritait pas, c'est lui qui l'a enduré et non pas nous. Donc, dans ces trois heures-là, il est notre sauveur. D'accord ? Et on peut lire un verset dans la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il est dit, lui-même, 1 Pierre 2, 24, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et donc ça, c'est pendant ces trois heures-là. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il faut bien comprendre que le Seigneur n'a pas porté nos péchés pendant sa vie sur la terre. Il n'a pas expié nos péchés pendant sa vie sur la terre. Il a porté nos péchés et il les a expiés pendant ces trois heures-là. Seulement. Si on peut dire ça comme ça. D'accord ? Donc ces trois heures, c'est les heures qu'on appelle les heures de l'expiation. C'est ces heures où le Seigneur a pris sur lui nos péchés et qu'il en a subi la condamnation de la part de Dieu. Il a été seul. Seul. Personne ne l'a soutenu. Aucun ange, aucun disciple, personne pour le soutenir. Il a été seul et il a enduré toute la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Et ça, c'est absolument unique. Unique. Il a souffert à notre place, pour nos péchés. Ce que lui ne méritait pas, ce que nous méritions, c'est lui qui l'a enduré. Alors, non seulement il a porté nos péchés en son corps sur le bois, mais on peut lire deux expressions aussi qui vont encore plus loin que ça. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, 5. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Il est dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Mais cette expression, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Donc c'est quelque chose qui va plus loin que de dire le Seigneur a porté nos péchés en son corps sur le bois. Non seulement il a porté nos péchés, mais il a été fait péché. Comprenez ? Il a été fait péché. Il a été considéré comme étant le péché. Lui qui était saint et pur, qui était parfait comme on l'a vu, il a été fait péché. Pourquoi ? Pour que la condamnation de Dieu contre le péché soit exécutée. Elle a été exécutée sur lui qui a été fait péché. Donc on ne peut pas imaginer d'abaissement plus grand. Non seulement il a porté nos péchés, mais il a été fait péché. Et il y a Galates chapitre 3 qui a des expressions qui sont un peu semblables. Galates 3 nous dit, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Donc là, il est dit, il est devenu malédiction. Il a été fait péché, il est devenu malédiction pour nous. Donc ça, c'est le point le plus, je ne sais pas s'il faut dire le plus élevé ou le plus bas, le point le plus bas où le Seigneur est descendu. Il a été fait péché pour nous. Lui qui a horreur du péché. Dans Habacuc, il y a un verset qui dit « Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Il ne peut contempler l'oppression. » Habacuc, je crois, chapitre 1. Eh bien, le Seigneur qui est Dieu, devenu homme, il a été fait péché. Pour que le jugement de Dieu puisse s'exécuter contre le péché. Pour satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu, Dieu est juste, Dieu est amour et Dieu est lumière. Dans son amour, Dieu donne son Fils pour nous sauver, mais dans sa sainteté et dans sa justice, il doit condamner son Fils parce qu'il a été fait péché pour nous, parce qu'il a porté nos péchés sur lui pendant ces heures-là. D'accord ? Ça, c'est la chose la plus profonde de ce qui se passe sur la croix, c'est ces heures de l'expiation. Le Seigneur est abandonné, le Seigneur est seul devant et subit la colère de Dieu, le jugement de Dieu à notre place. Et donc, ça c'est le sujet le plus profond. Et voilà, quand le Seigneur dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça fait référence au psaume 22. Vous savez, le psaume 22, c'est le psaume qui commence justement par ces paroles « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans le psaume 22, on voit, on ne va pas l'étudier maintenant, mais c'est un psaume qui est remarquable et qu'il faut lire et relire. On voit les souffrances du Seigneur, principalement quand il a été abandonné de Dieu. Pas seulement, on voit aussi ses souffrances en rapport avec la méchanceté des hommes, on voit ses souffrances physiques en rapport avec la crucifixion, mais le point central, c'est la souffrance que le Seigneur a connue étant abandonné de Dieu. Et ce qui est très très beau, mais je ne fais que le mentionner, c'est que dans le psaume 22, On voit le Seigneur qui exprime ces paroles-là, mais ce ne sont pas des paroles de plainte ou de murmure. C'est pas pourquoi, dans le sens qu'il conteste la façon d'agir de Dieu à son égard. Vous comprenez ? Mais c'est un cri de détresse, un cri de souffrance. Il souffre de cet abandon de Dieu et il exprime. Mais ce n'est en aucun cas un reproche vis-à-vis de Dieu, mais c'est l'expression de sa souffrance et de sa détresse d'être seul et que Dieu soit contre lui à ce moment-là. Et donc c'est cette expression de la souffrance et de la détresse, mais si on lisait le psaume 22, on verrait que le Seigneur, alors qu'il était seul, qu'il était frappé de Dieu, qu'il était jugé par Dieu pendant ces 3 heures-là, eh bien, il continuait à se confier en Dieu. Et il continuait à s'attendre à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il souffre de l'abandon, mais ce n'est pas parce qu'il est abandonné qu'il ne continue pas de s'attendre à Dieu et de se confier en Dieu. Et ça, c'est la perfection la plus totale, la plus parfaite. Il souffre de cet abandon, une souffrance qu'on ne peut pas imaginer, nous, mais en même temps qu'il souffre de cela, il se confie en Dieu. Et il justifie Dieu. Quand il dit dans le psaume 22, verset 3, « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël, il justifie Dieu. Il souffre d'être abandonné par Dieu, il exprime cette souffrance, cette détresse, mais il justifie Dieu. Et il continue à se confier en Dieu. Alors qu'il n'a pas de réconfort de la part de Dieu à ce moment-là. Il est abandonné, il n'a pas le réconfort de la communion avec Dieu, mais pour lui, ce n'est pas une raison d'arrêter de se confier en Dieu. Et ça, je répète, c'est peut-être la perfection la plus parfaite, si on peut dire ça comme ça, la confiance pure et parfaite du Seigneur en Dieu. Alors qu'il est abandonné, il justifie Dieu et il se confie en lui. Voilà, donc, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il a pris nos péchés pendant ces heures-là, parce qu'il a été fait péché, parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Il a été frappé de Dieu, il a été abandonné de Dieu. Parce que Dieu est juste et saint, il a dû endurer cela. Et pourquoi on peut être sauvé ? Pourquoi on peut être pardonné ? Pourquoi on peut être justifié ? Pourquoi on peut être lavé de nos péchés ? Seulement parce que le Seigneur a enduré ces 3 heures-là. Si le Seigneur n'avait pas enduré ces 3 heures-là, Dieu ne pourrait pas nous pardonner nos péchés. Il ne serait plus juste s'il nous pardonnait nos péchés. Mais puisque le Seigneur a payé le prix, Dieu peut nous justifier, Dieu peut nous pardonner en restant juste. Comprenez ? Donc ça, c'est la quatrième parole, la parole centrale, qui exprime toute la détresse, toute la souffrance du Seigneur qui a été frappé de Dieu, abandonné de Dieu, qui a été fait péché, qui a porté nos péchés, qui est devenu malédiction pour nous. Voilà. Et il a souvent été fait remarquer que on devrait tous être capables on devrait tous répondre à la question du Seigneur, c'était pour moi. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour moi. Pour que son Dieu et son Père deviennent mon Dieu et mon Père, il a dû être abandonné. Sans cela, on serait éternellement condamné à cause de nos péchés. Mais puisqu'il a été là, puisqu'il a fait cela, nous pouvons être pardonnés pour l'éternité. Donc ça, c'est la parole centrale du Seigneur. Ensuite, cinquième parole. Donc les heures de ténèbres se sont terminées. Donc il est dit que c'était à la fin des heures de ténèbres que le Seigneur a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc là, on est un peu plus loin. Le Seigneur va bientôt mourir, on va voir. Mais il va dire encore trois choses. Et la première de ces trois, c'est l'expression de la soif. Et c'est seulement Jean qui nous le dit. Matthieu et Marc montrent que les hommes sont venus lui donner à boire, mais ne rapportent pas que le Seigneur a dit « j'ai soif ». C'est seulement Jean qui montre que le Seigneur a dit « j'ai soif ». Alors, pourquoi le Seigneur a dit « j'ai soif » ? Donc j'ai dit au début que c'était une parole de désir. Et il me semble qu'on peut voir trois aspects dans l'expression « j'ai soif ». Alors d'abord, je précise une chose, c'est quand on lit le récit de la crucifixion dans Matthieu et Marc, on voit que au tout début, c'est-à-dire juste avant la crucifixion, les soldats romains ont proposé au Seigneur une boisson, du vinaigre mêlé de fiel, il est dit, et que le Seigneur en a goûté, mais il ne voulut pas en boire. Donc je dis ça parce que c'est à distinguer de ça. Quand le Seigneur est arrivé à Golgotha, avant d'être mis en croix, les soldats romains lui ont proposé une boisson, du vinaigre mêlé de fiel, et il a goûté, mais il a refusé d'en boire. Parce que cette boisson-là, c'était la boisson que les soldats romains donnaient aux crucifiés pour atténuer leur souffrance physique. Et le Seigneur, il n'a pas pris. Il dit, il a goûté, mais il n'a pas bu. Donc le Seigneur n'a rien fait, n'a rien pris pour atténuer ses souffrances. Mais là, c'est quelque chose de distinct, différent. C'est après les trois heures, il a dit « j'ai soif ». Et on est venu lui donner du vinaigre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai soif » ? Je pense que le premier point, c'est ça montre où ça fait ressortir ses souffrances physiques. C'est qu'un crucifié, comme on peut se l'imaginer, il endure des souffrances physiques atroces, petit à petit, et notamment la soif. Et le Seigneur on ne lui a pas épargné ses souffrances physiques. Et on voit dans le psaume 22 qu'on a cité tout à l'heure, déjà, on voit que le Seigneur va exprimer quelque chose qui se rapporte clairement à cette soif qu'il a eue. Au verset 15, il dit, psaume 22, verset 15, il dit « Ma vigueur est desséchée comme un thé et ma langue est attachée à mon palais. » Donc on voit cette expression « Ma vigueur est desséchée, ma langue est attachée à mon palais. » C'est quelqu'un qui n'a plus de salive, quelqu'un qui est desséché. Et ça traduit les souffrances physiques qu'il a endurées. Et donc, il faut comprendre que même si ce n'est peut-être pas les souffrances les plus importantes dans un sens, il y a eu ces souffrances physiques. Et notamment, le Seigneur, il a dit... Aussi, psaume 22, verset 14, « tous mes os se déjoignent ». Il a senti dans son corps même les effets de la crucifixion, physiquement. Et quand il dit aussi, je compterai tous mes os. Je compterai tous mes os. Peut-être que ça veut dire que tellement il sentait les douleurs physiques qu'il sentait tous ses os. Tellement il en souffrait, il comptait ses os. Il ressentait le rôle de chacun de ses os dans ses souffrances. Donc, premier point, dans l'expression « j'ai soif », il y a sa douleur physique et qui montre que le Seigneur était un homme, un véritable homme. Ce n'était pas, excusez-moi l'expression, je ne veux pas employer une expression qui serait dégradante pour le Seigneur, mais ce n'était pas un super-héros qui était insensible aux douleurs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était un homme, véritablement comme nous, sauf qu'il n'a pas péché, qu'il n'avait pas de péché en lui, mais c'était un homme. Et tout ce qu'il a enduré sur la croix, il a souffert. Ensuite, deuxième point, j'ai soif. Comme il est dit, là, vous voyez, il est dit, afin que l'Écriture fût accomplie. Il dit, j'ai soif. Donc, en même temps qu'il y avait ces douleurs, ces souffrances physiques, le Seigneur, il était venu pour accomplir les Écritures. Tout ce qui était écrit de lui dans l'Ancien Testament, il était venu pour l'accomplir. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, on voit aussi un autre verset dans le psaume 69, où le Seigneur dit « Dans ma soif, ils m'ont... » psaume 69, verset 21, « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Psaume 69, verset 21. Donc, c'était écrit de lui. Donc, le Seigneur a voulu que ce soit accompli. Donc, on voit à travers cette phrase aussi, donc non seulement ses souffrances physiques, mais aussi ce qu'il y avait dans la pensée du Seigneur, c'était toujours, il était toujours, on pourrait dire, occupé des Écritures, rempli des Écritures, de l'Ancien Testament, et il était venu pour accomplir tout ce qui était dit de lui. Il y avait ce désir, cette volonté que tout ce qui avait été écrit dans les Écritures s'accomplisse. Donc on voit par là son intérêt pour les Écritures et son désir que les Écritures s'accomplissent. Donc, un autre motif qu'on peut voir dans cette façon de parler. Et il me semble qu'on peut voir un troisième motif, une troisième pensée dans cette expression « j'ai soif ». Peut-être une portée plus spirituelle. Dans le sens que, vous vous rappelez, on a dit « voilà ta mère, voilà ton fils, voilà ta mère ». On pouvait voir la formation des liens de la famille de Dieu. Quand quelqu'un dit « j'ai soif » dans la Bible, c'est souvent un désir. Et on peut penser qu'en disant cela aussi, le Seigneur, il avait dans son âme ce désir que ce qu'il venait d'endurer puisse avoir des résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on pourrait, dans ce sens, on peut dire qu'il avait soif de résultats, de conséquences positives en rapport à ce qu'il venait de faire pendant les 3 heures de ténèbres. Il avait soif de que des hommes se tournent vers lui et croit en lui, et accepte ce qu'il venait de réaliser sur la croix. Il aspirait à avoir des résultats par rapport à ce qu'il faisait, ce qu'il accomplissait sur la croix. Il avait soif d'hommes qui se convertissent, qui se repentent et qui croient. D'accord ? Il avait, voilà, il voyait, il aspirait à des résultats, à des conséquences bénies, positives, en rapport à ce qu'il, avec ce qu'il venait d'accomplir. Et dans ce sens, il est très beau de voir que dans plusieurs versets, dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit que celui qui a soif vienne à moi. Il y a au moins trois versets qui nous parlent de cette manière. Je cite le verset à la fin de l'Apocalypse. Le Seigneur, il dit, Apocalypse 22, verset 17, « Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. » Et donc c'est très beau de voir que celui qui a dit « J'ai soif » sur la croix, c'est le même qui dit aux hommes que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Celui qui a dit « J'ai soif », il est devenu en quelque sorte la source des eaux de la vie, au sens spirituel. Comprenez ? Et c'est très beau. Celui qui a souffert, ces souffrances qu'on a essayé de décrire, qui a dit « J'ai soif », qui a aspiré à avoir des résultats, c'est celui auquel on peut venir quand on a soif. Quand on a soif de justice, quand on a soif de pardon, quand on a soif d'amour, on vient au Seigneur Jésus. Et lui, il est la source de l'eau de la vie. Lui qui a dit « J'ai soif ». Voilà, pour cette cinquième parole, « J'ai soif », ses souffrances physiques, son désir que les Écritures s'accomplissent, et enfin, le désir spirituel qu'il avait dans son cœur en rapport avec les conséquences, les résultats de ce qu'il avait accompli.
J'ai une question. On a lu dans Psaume et tu as dit que le Seigneur Jésus a dit, mais c'est pas lui qui a écrit les psaumes, c'est David. Tu peux peut-être juste dire quelque chose par rapport à ça ? Juste une.
Qu'en fait, certes, c'est David qui a écrit ces psaumes, mais que, en fait, David, il a écrit étant inspiré par l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu mettait par écrit, par l'intermédiaire de David, des sentiments ou des choses qui étaient non seulement en rapport avec David, mais au-delà, en rapport avec le Seigneur. Il a écrit comme prophète. Comprenez ? C'était l'Esprit de Dieu qui dirigeait David, et David, certainement qu'il ne réalisait pas que ce qu'il écrivait, ça s'appliquait à quelqu'un d'autre que lui. Et donc, on arrive à la sixième parole, qui est une parole, on pourrait dire, de victoire. Donc, le Seigneur a dit, après avoir pris le vinaigre, il a dit, c'est accompli. Et donc, cette parole, donc, c'est accompli. Donc ça montre, en fait, c'est une parole qui exprime que le Seigneur, il avait reçu une mission de la part de Dieu et que cette mission qu'il a reçue, il a parfaitement accomplie. Et par exemple, dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, le Seigneur, il dit, au moins à deux reprises, il dit « Le Père a mis toutes les choses entre les mains du Fils. » Le Seigneur, il dit aussi, en Jean 17, « J'ai achevé l'œuvre que le Père m'a donnée à faire. » Donc, le Seigneur, il avait reçu une mission, une œuvre à accomplir de la part de Dieu. C'était cette œuvre de la croix, cette œuvre de la rédemption, cette œuvre de l'expiation. Et le Seigneur, il a exprimé le fait que c'était accompli, que c'était achevé, que c'était terminé. Mais terminer, pas simplement dans un sens temporel, dans le sens que c'est terminé, c'est fini au niveau du temps, de la montre, mais c'est fini. Ce qu'il devait faire, il l'a fait. Parfaitement, complètement. D'accord ? Donc l'expression de que ce qu'il a fait a été parfaitement fait et que ça a été achevé. C'est aussi, ça montre aussi, paraît-il, que cette, l'expression qui est derrière en grec, c'est un mot qui peut-être certainement que plusieurs en ont entendu parler, le mot grec qui correspond à cet accompli, c'est tétélestai, et on rapporte que c'était un mot qui était écrit sur les factures qui étaient payées, qui étaient acquittées. Quand quelqu'un devait de l'argent, avait une dette, ou devait payer quelque chose, il me semble, j'avais lu que on pouvait mettre sur la porte de sa maison la feuille avec la dette, et on mettait comme un couteau qui accrochait la feuille à la porte, et on écrivait dessus tétélestai pour dire c'est payé. La dette a été payée, la facture a été payée, c'est en règle, c'est en ordre. Il n'y a plus de dette, plus rien, on ne doit plus rien. Et voilà, c'est peut-être une petite illustration de ce que le Seigneur a achevé, a fait. Il a tout accompli. Nous n'avons de notre côté rien à faire. Le Seigneur a tout fait, nous avons simplement à croire. Donc, dans l'œuvre, dans le salut, l'homme n'a rien à faire. C'est le Seigneur qui a tout fait. L'homme n'a que à croire et à recevoir ce que le Seigneur Jésus a fait. Et on peut dire que tout ce que Dieu veut faire, tous les propos de Dieu, les plans de Dieu, que Dieu veut faire pour l'homme, en bénédiction pour l'homme, eh bien, il repose sur ce que le Seigneur Jésus a accompli. Dieu va pouvoir accomplir tous ses propos en bénédiction parce que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Donc c'est une parole qui montre que ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix, c'est une perfection et ça suffit pour tout ce que Dieu veut faire. Dieu peut se reposer, peut se baser sur l'œuvre du Seigneur pour accomplir ses propos de bénédiction pour nous. Encore peut-être une remarque. Que la mort du Seigneur, elle est à plusieurs reprises, c'est peut-être pour les un peu plus grands, elle est décrite par cette expression accomplie. Et on peut dire que la mort du Seigneur, c'est un accomplissement. Par exemple, il y a un verset dans Luc chapitre 9, un verset qui est connu. C'était sur la montagne de la Transfiguration. Il y a Moïse et Élie qui parlent avec le Seigneur. Et il est dit, il parlait de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et on aurait pu dire la mort qu'il allait subir à Jérusalem. Non, la Bible a dit la mort qu'il allait accomplir. Ça montre que ce que le Seigneur a fait, ce n'est pas qu'il a subi quelque chose. Ce n'est pas seulement malgré lui. Mais c'est que dans sa mort, dans ce qu'il a fait, il y a un accomplissement. D'accord ? Sa mort, sur la croix, c'est quelque chose de parfait, un accomplissement, un achèvement. Ce n'est pas simplement quelque chose de subi, qu'il a souffert, qu'il a enduré de la part des hommes, de la part de Dieu, mais c'est un achèvement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit ça aussi, par exemple, il est dit que un verset dans Acte 4, et je ne veux pas trop prolonger là-dessus, Acte 4, verset 28, en rapport avec la mort du Seigneur, il est dit qu'il a été mis à mort par... il a été mis à mort, verset 28 de Acte 4, pour faire toutes les choses que ta main, donc il parle à Dieu, que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. Donc ça montre que Dieu, dans son conseil, c'est-à-dire dans ce qu'il avait prévu de faire, il y avait la mort du Seigneur. Et que la mort du Seigneur, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait à l'avance voulu qu'il se passe. D'accord ? Donc c'est vraiment la mort du Seigneur, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu, de ce que Dieu s'était proposé. C'est quelque chose, c'est pas, ce que je répète, c'est pas quelque chose simplement de subi, mais il y a une perfection, ou qu'on peut dire un accomplissement, un achèvement dans ce qu'il a fait. Voilà pour cette sixième et avant-dernière parole. Et maintenant, s'il n'y a pas de questions, je passe à la dernière parole du Seigneur. Le Seigneur, après avoir... crié à forte voix, après avoir dit c'est accompli, il a crié à forte voix, à haute voix, et il a dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Donc là, c'est la mort du Seigneur. Il remet son esprit entre les mains de Dieu, c'est qu'il il entre dans la mort. Mais on remarque deux, trois choses. On remarque que le Seigneur, il crie à haute voix. Ça indique que le Seigneur, il a encore de la force intérieure. Et normalement, un crucifié, il s'étouffe. Il meurt par épuisement. Et il s'étouffe. Il ne peut plus soutenir son propre poids, et il s'essouffle, il s'épuise et il meurt. Donc la mort normale d'un crucifié, c'est un épuisement. Mais le Seigneur n'est pas mort de cet épuisement, parce qu'il a crié à haute voix. Il y avait encore en lui de la force. Et donc ça va avec cette pensée que le Seigneur a donné lui-même sa vie. Comme il dit dans l'évangile de Jean, « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. » D'accord ? Et ça se voit là. Ce n'est pas qu'il est mort épuisé, étouffé de la crucifixion, mais il avait encore de la force, et dans sa force, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Il a donné lui-même sa vie. On remarque qu'il dit « Père ». Donc, on voit que cette communion qui s'était interrompue pendant les 3 heures de ténèbres, elle a été retrouvée. Il avait dit « mon Dieu », comme s'il ne pouvait plus dire « Père ». Mais là, il dit de nouveau « Père ». Les 3 heures de ténèbres sont passées. Il a retrouvé la communion, la relation, la communion avec le Père. Et il peut s'adresser avec cette liberté-là. Et puis, il dit, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » On voit dans ces paroles du Seigneur, on voit un homme qui vit toujours dans la dépendance de Dieu. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Il n'est jamais indépendant de Dieu. jamais, de son Dieu et Père, jamais. Il fait tout en rapport avec lui. Et même au dernier moment de sa vie, quand il s'agit de mourir, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est beau de voir que, comme quelqu'un a dit, il détache lui-même l'esprit de son corps et il le remet entre les mains de son Père. Donc pour lui, mourir, c'est remettre son esprit entre les mains du Père. C'est très très beau. Son esprit entre les mains de son Père. Et donc, c'est ainsi qu'il meurt. Et peut-être que j'aimerais dire encore, voilà. On vient de dire là que le Seigneur, il est mort de lui-même. Il a donné lui-même sa vie. Et on le voit, il remet son esprit. C'est lui qui donne sa vie. Mais si on lit dans la Bible, en fait, on remarque que la Bible, elle présente la mort du Seigneur de trois aspects différents, sous trois aspects différents. Effectivement, elle montre, un de ces trois aspects, c'est le Seigneur qui donne lui-même sa vie. C'est ce qu'on a vu là. Mais parfois, c'est présenté que ce sont les hommes qui l'ont mis à mort. Par exemple, quand Pierre il prêche aux Juifs au début des Actes, il dit « Vous, vous avez mis à mort le prince de la vie. » D'accord ? Donc, c'est un autre aspect qui n'est pas contradictoire. C'est que d'un côté, le Seigneur donne lui-même sa vie, mais d'un autre côté, il y a la responsabilité des hommes qui l'ont crucifié et qui l'ont mis à mort. Et il y a un troisième aspect, c'est Dieu qui livre son Fils dans la mort. Par exemple, si on lit dans Romains chapitre 8, Romains 8, verset 32, il y a cette expression, celui-même, pour parler de Dieu le Père, celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Où on voit aussi, j'ai fait allusion au psaume 22 tout à l'heure, et dans le psaume 22, le Seigneur, il dit, en s'adressant à Dieu, il dit, « Tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Donc en fait, c'est simplement trois aspects qui ne se contredisent pas, mais qui sont simplement trois regards différents sur la même chose, la mort du Seigneur. D'un côté, il y a la responsabilité, la culpabilité des hommes qui l'ont mise à mort. D'un autre côté, il y a le Seigneur qui a lui-même donné sa vie dans la mort. Et d'un troisième côté, c'est Dieu qui a livré son propre Fils dans la mort pour nous. Les trois aspects sont vrais. Et on ne peut pas dire que parce qu'il y a un de ces aspects, les deux autres sont faux. Non, les trois sont vrais en même temps. Il a donné lui-même sa vie. Dieu l'a donné pour nous, l'a livré pour nous, et les hommes l'ont mis à mort. Et je finis en mentionnant, vous voyez, dans Jean 19, il est dit, et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Et c'est que dans Jean que c'est dit comme ça, ayant baissé la tête. Et vous savez, dans Matthieu, il est dit, au moins dans Matthieu, peut-être ailleurs aussi, à un moment, le Seigneur dit en Matthieu 8, à son sujet, il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Eh bien, quand on regarde les mots qui sont utilisés dans le texte original en grec, eh bien, ayant baissé la tête, c'est le même mot que ayant reposé la tête. Donc, ça nous montre que le Seigneur, qui n'a eu aucun lieu pour reposer sa tête durant toute sa vie, tellement il était consacré aux intérêts de Dieu, au service de Dieu, et qu'il était en même temps rejeté, il n'avait pas un lieu de repos pour lui, pour sa tête, eh bien, alors qu'il a tout accompli sur la croix et qu'il remet son esprit entre les mains de son Père, là, il est dit, il baisse la tête, il repose la tête. Tout ce qu'il a fait est parfait, il a fait tout ce qu'il devait faire, il peut remettre son esprit entre les mains de Dieu son Père dans la conscience d'avoir fait tout ce qu'il avait à faire. Donc c'est vraiment une parole qui montre la parfaite dépendance de Dieu vis-à-vis du Seigneur vis-à-vis de Dieu son Père, et en même temps cette conscience que tout est fini, que tout est accompli, et qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, il peut entrer dans le repos entre les mains du Père. J'avais noté aussi que la première parole qu'on voit dans la bouche du Seigneur, qui est rapportée du Seigneur dans les évangiles, c'est quand il avait 12 ans. Et le Seigneur dit à ses parents, à son père et à sa mère, il dit, ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? C'est les premières paroles que l'on voit dans la bouche du Seigneur, quand il avait 12 ans. Et sa dernière parole, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Celui qui était aux affaires de son Père, à la fin, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc c'est la dépendance et la confiance en Dieu son Père à la toute fin de sa vie. Et il entre dans la mort. Aussi, je m'étais noté que c'est une prière, et on voit dans l'évangile de Luc, on voit souvent, je ne sais plus combien de fois d'ailleurs, on voit souvent le Seigneur en prière dans l'évangile de Luc. Et c'est l'évangile qui le montre souvent en prière. Et que c'est ce qui exprime que le Seigneur était un homme dépendant de Dieu. Et ses dernières paroles, c'est une prière, pour ainsi dire, qui nous montre que cette vie de dépendance du Seigneur, il a eu du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans la dépendance de Dieu. Même sa mort. Peut-être que quand on va un peu en profondeur sur les paroles du Seigneur, ça nous fait perdre un petit peu la vue d'ensemble. Et c'est beau toujours d'avoir à la fois la vue d'ensemble et d'aller dans les détails sur ces paroles. Et voilà, les paroles du Seigneur, l'intercession au début, le salut, l'amour et la sollicitude, la tendresse, la détresse et la souffrance, le désir, la victoire et la confiance et la dépendance. Voilà. Et quel exemple pour nous. Dans bien des choses, il est un exemple pour nous, mais dans certains aspects, il n'est pas un exemple, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, nous. Par exemple, la quatrième parole, ce qu'il a connu pendant les heures de ténèbres, il n'est pas un exemple, il n'est pas un modèle pour nous, parce qu'on ne peut pas le suivre là-dedans. Il est unique, il est seul. Il n'y a que lui qui a pu faire cela. Nous, on reçoit la bénédiction qu'il a acquise par cela, mais il n'est pas un modèle pour nous. On ne peut pas le suivre, on ne peut pas l'imiter dans cela. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Mais nous, on va pouvoir l'imiter sur la confiance, la dépendance, sur l'esprit de grâce, de pardon, sur l'amour qu'il a manifesté. Ça, c'est des choses où il est un modèle pour nous. Mais dans certains aspects, il est au-dessus de nous, il est unique, il est seul et il est inimitable.